C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. On a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ces propos, ce sont ceux du président de la République Emmanuel Macron. Ils ont été prononcés en juin 2023, suite aux émeutes qui ont éclaté après l'homicide, par un policier dans l'exercice de ses fonctions, de l'adolescent franco-algérien Naël Merzouk. Emmanuel Macron accusait les jeux vidéo, commodément et comme bon nombre de membres de la classe politique avant lui, d'intoxiquer les mentalités des jeunes Français au point de les rendre violents. Déclaration qui a provoqué une levée de boucliers immédiate de la part de la communauté des joueurs et des joueuses, qui rappelait qu'on ne disposait à ce jour d'aucune étude scientifique pouvant certifier d'un lien de causalité directe entre la pratique du jeu vidéo et la violence sociale. Le jeu vidéo ferait faire, une accusation qui est en fait vieille comme le monde et qui a toujours visé de manière plus générale les images. Les images corrompent, rendent bêtes, rendent violents. On trouvera dans l'histoire nombre de résurgences très virulentes de ces sempiternelles affirmations. Pourtant, on aurait pu croire naïvement qu'on en avait fini depuis longtemps en Occident avec la querelle des images. Dans Vie et mort de l'image, publié en 1992, le philosophe Régis Debray le rappelle. L'Occident est historiquement de tradition chrétienne, or la tradition chrétienne a tranché en faveur des images. En effet, en 787, a lieu le deuxième concile de Nicée, un événement majeur dans l'histoire de la religion chrétienne. Ce concile, réuni afin de trancher dans le débat sanglant qui voyait s'affronter les iconoclastes, les ennemis des images, et les iconophiles ou iconodules, partisans de l'image, a abouti à l'adoption d'un décret qui continuera de secouer les croyants pendant plus d'un siècle. Les pères conciliaires stipulent dans ce décret que les images sont des incarnations du Verbe divin, et en tant que telles, non seulement peuvent être honorées, mais encore doivent être honorées. Refuser d'honorer les images, c'est en un sens refuser de reconnaître que le Verbe de Dieu s'incarne directement dans le monde sensible. De la même façon que le Christ est le Dieu qui s'est fait chair, les images religieuses sont aussi des incarnations du divin. Pour les dire dans les termes de Nicéphore Ier, patriarche de Constantinople au début du 9e siècle, « Si l'on supprime l'image, ce n'est plus le Christ, mais l'univers entier qui disparaît. » car le monde sensible est à l'image de Dieu. La tradition occidentale, irriguée par le christianisme, est de ce point de vue finalement assez opposée au judaïsme, qui est historiquement en défaveur des représentations du divin, mais également au protestantisme. En effet, le protestantisme, se voulant dès son essor au XVIe siècle une religion du retour au texte, aux écritures seules, critique farouchement les images qui conduiraient à l'idolâtrie bête et méchante. Comme le judaïsme en un sens, la tradition protestante préférerait la parole de Dieu, c'est-à-dire le texte biblique, à l'image de Dieu, soit les icônes religieuses. Malgré les multiples querelles sur les images, leurs effets et leurs statuts, il ne fait aucun doute que les pays occidentaux se sont globalement affirmés au fil des siècles comme civilisation par excellence de l'image, le pays incontesté en la matière étant depuis le XXe siècle les États-Unis. Pourtant, parallèlement au triomphe absolu de l'image au XXe siècle, avec l'explosion notamment du cinéma, de la photographie, de la télévision, de la publicité puis plus tard du jeu vidéo et au XXIe siècle du smartphone, la vieille inquiétude a commencé à refaire surface, d'abord de manière étouffée, mais aujourd'hui de manière beaucoup plus affirmée et revendicative. Les images corrompent, les images rendent violents. Ainsi, le discours d'Emmanuel Macron que nous avons cité n'est pas sans rappeler les propos tenus par Ségolène Royal en 1989, dans un ouvrage condamnant l'omniprésence de la télévision dans les foyers français et intitulé « Le ras-le-bol des bébés zappeurs ». Je la cite. Dans les dessins animés et les séries japonaises, du moins ceux que l'on voit sur les chaînes commerciales françaises, elle parle ici du Club Dorothée, ou dans certaines séries américaines, tout le monde se tape dessus. Les bons, les méchants et même ceux qui ne sont rien, les figurants de la mort. De la même façon, l'apparition du cinéma au début du XXe siècle avait inquiété par la banalisation des images de violence qu'il aurait permis. Toutefois, c'est à l'orée du XXIe siècle que cette tendance iconoclaste, voire puritaine, résolument opposée aux images, s'est soudainement affirmée à la vue de tous, à la télévision même, avec le traitement d'un événement, le 11 septembre. Selon Marie-Josée Monzin, dans son ouvrage « L'image peut-elle tuer ?» publié en 2002, les images du 11 septembre ont globalement fait l'objet d'un certain hygiénisme médiatique aux États-Unis et ailleurs. On ne montrait pas à la télévision américaine les images des corps des victimes, mais on revoyait plutôt en boucle l'effondrement des tours jumelles et les crashs des avions. Une sorte de politique du zéro mort à l'écran qui a fait dire à beaucoup que l'armée américaine elle-même, dans un souci de propagande militaire axée sur la victoire totale des États-Unis contre l'axe du mal, avait commandité l'interdiction des victimes à l'écran. Alors qu'on accusait souvent la télé de tout montrer, de trop montrer, voire d'exhiber avec un voyeurisme fasciné et pervers toute la violence du monde, voilà qu'on ne montrait plus, qu'on occultait. La réflexion sur les images et leur violence avait retrouvé un terrain soudainement beaucoup plus légitime. Un régime plus strict concernant les images, en particulier dans les médias, mais aussi au cinéma, s'est mis à prévaloir pendant quelques mois, voire quelques années. Dans un article publié en ligne, l'universitaire Julie Sermon rappelle ainsi que Sam Raimi, réalisateur du film de 2002 de Spider-Man, a censuré l'une des bandes-annonces de son long-métrage, qui montrait Spider-Man tissant ses toiles autour des deux tours, allant même jusqu'à retarder la sortie de son film de plusieurs mois. Dans son ouvrage, Marie-Josée Monzin explique que l'une des intentions explicites des commanditaires de l'attentat du 11 septembre était de retourner le culte de l'image des Occidentaux contre eux-mêmes. Ainsi, à la télé, les Américains pouvaient assister au spectacle de leur propre destruction. En caricaturant, une organisation issue d'une tradition religieuse sans image, l'islam, a retourné l'image, l'arme privilégiée du soft power chrétien et occidental, contre l'Occident lui-même. Prise à leur propre jeu, du jour au lendemain, l'image violente est donc devenue potentiellement traumatique pour les Américains. L'image violente est de fait l'une des armes du terrorisme. Terrorisme et médiatisation sont, selon la chercheuse Pascale Combel-Siegel, en relation de dépendance mutuelle. Le terrorisme dépendant des médias occidentaux pour propager la peur à travers l'image des attentats. Soudainement, donc, l'image violente s'est mise à faire peur. Mais aussi, la banalisation de l'image violente. La crainte de l'image violente, c'est la crainte que sa violence nous contamine, que l'image nous rende violent. Bref, que l'image fasse faire, nous dit Marie-Josée Monzin. À travers la dénonciation de la violence des animés japonais ou du jeu vidéo GTA, une angoisse, que l'image puisse produire un passage à l'acte. C'est un renversement total du concept fondamental de la théorie tragique grecque, la catharsis, concept formulé par Aristote dans la Poétique au IVe siècle avant notre ère. La catharsis, qu'on traduit souvent par « purge des passions », introduit l'idée que le spectacle de la violence préserve justement la communauté politique du passage à l'acte. Montrer l'horreur dans les tragédies, c'est s'en prémunir en s'en libérant par la performance fictive. Pour le dire encore autrement, et dans les termes de Monzin, le spectacle du pathos, des passions humaines, permet le passage au logos, à la raison et à la discussion, par l'interprétation collective de ce spectacle. En considérant que l'image rend violent, l'on voudrait au contraire que le pathos ne produise que du pathos, que le spectacle des passions ne produise que des passions. On comprend alors pourquoi le jeu vidéo devient la cible privilégiée. L'image dans le jeu vidéo n'est pas simplement spectacle, car elle est comme générée par le joueur lui-même, c'est comme si c'était lui, l'auteur de l'image de la mort lorsqu'il joue à Counter-Strike, GTA ou Call of Duty. C'est lui qui renverse les passants, tire au sniper ou pilote des drones de combat. Le rôle actif du joueur dans le jeu vidéo rend l'idée de passage à l'acte par l'image plus séduisante, plus facile à formuler. Et pourtant, les synthèses de nombreuses études menées depuis les années 90 sur le jeu vidéo ont démontré au contraire qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre le jeu vidéo violent et le passage à l'acte. C'est seulement chez des sujets déjà susceptibles d'agressivité et de violence que les jeux vidéo violents tendaient à accentuer ces comportements. Ce qui fait dire que les jeux vidéo et les images violentes ne sont pas les responsables, mais qu'il faut plutôt tourner le regard sur l'environnement social qui vient orienter, suppléer la réception de ces images chez l'adolescent. Comme le rappelle Monzin, les images ne sont que des choses. À moins de leur prêter des pouvoirs magiques comme dans les traditions animistes, la seule chose qui peut inciter chez elles un passage à l'acte, c'est bien la façon dont on les regarde. Autrement dit, c'est la réception des images qu'il faut interroger. Ce dont on a peur vraisemblablement, c'est de l'abolition de la distance entre le spectateur et l'image. Spectateur qui adhérerait sans recul à ce qu'il voit, sans avoir d'outils pour comprendre, analyser, décoder l'image. Ceux qui prêtent leur pouvoir aux images, ce ne sont donc pas les images elles-mêmes, mais le recul du discours sur les images, d'éducation correcte aux images, bref, le recul du temps de respiration nécessaire au spectateur, pour le formuler à nouveau dans les termes de Monzin. Pourquoi la violence des images nous inquiète-t-elle autant ? Parce que lorsque l'on voit aujourd'hui la diffusion d'images de drones pilotés à distance par des militaires hilars qui bombardent des civils, il est tout naturel de se demander comme premier réflexe si les jeux vidéo et les images ne facilitent pas la déréalisation totale de la violence. En un sens, ils le peuvent certainement, mais non pas par nature. Ces contenus entraînent la violence parce qu'on le permet, seulement parce qu'on laisse en friche toute élaboration discursive rationnelle de leur violence. Aujourd'hui, je propose non pas de donner une réponse définitive à ces débats et inquiétudes, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qu'est une image, et par suite à ce qu'est une image violente. Aujourd'hui, je laisserai aussi la parole à une intervenante, Rindala El Ayoubi, doctorante en philosophie à l'université de Tours, spécialisée à l'étude du philosophe français René Descartes, et qui traitera avec nous du rapport problématique des images et des images violentes à la vérité. Vous écoutez Ben, et aujourd'hui nous allons parler de la violence et de la vérité des images. J'ai vu Berlin, Bucarest et Pékin, comme si j'y étais. Matin et soir, le nez dans la télé, c'est encore du vrai. J'étais de tous les combats, collé devant l'écran, à la boisse au Weto, en Chine et au Liban. Définir l'image est un exercice périlleux, car l'image a de très nombreuses formes qu'il est difficile de réunir en une seule définition. La tradition académique s'entend toutefois pour dire que l'image, en règle générale, est un dispositif symbolique qui consiste à rendre présent quelque chose qui est absent, à montrer ce qui, par définition, n'est pas là, à manifester ce qui n'est pas physiquement présent avec nous. L'image peut être mentale, comme un souvenir ou un rêve, ou bien être une production réelle, une image physique. Par exemple, une photographie est une image physique, et aussi une manifestation qui vient rendre présente une réalité qui n'est plus là, une réalité passée. Une image de licorne manifeste aussi une chose absente, parce que n'existant pas et n'étant pas devant nos yeux. Ces images physiques, parce qu'elles permettent de montrer ce qui n'est pas là, ou ce qui n'est pas physiquement observable, voire ce qui est irréel, ont de multiples usages. Elles peuvent avoir un usage fictionnel, narratif. Dans ce cas, la fonction principale de l'image est de raconter une histoire. Elles peuvent aussi avoir un usage commémoratif, mémoriel, voire sacré. Ainsi, on peut représenter le Christ sur sa croix, et les images de crucifixion sont et ont été prises pour des manifestations directes du divin par les croyants. L'image peut alors provoquer une sorte de nostalgie ou un désir, parce qu'en même temps qu'elle rappelle une réalité et la rend présente à notre esprit, elle marque en même temps son absence dans le présent. L'image de la crucifixion rappelle par exemple la mort de Jésus et l'attente de la venue du royaume de Dieu sur terre. Les photographies nous rappellent que les choses passées le sont pour toujours. Ainsi, des photos des personnes défuntes, voire plus trivialement de votre ex, par exemple, marquent le passage du temps. L'image est donc une mise en présence, mais paradoxale, toujours teintée d'une certaine mélancolie, de l'absence de la chose réelle. Soit parce que la chose représentée n'existe pas, une licorne, soit parce qu'elle n'existe plus, soit parce qu'elle est éloignée dans l'espace. La FOMO, Fear of Missing Out, en français la peur de manquer, comprendre de manquer quelque chose, caractérise un état d'anxiété très propre à l'ère des réseaux sociaux, où le sujet a constamment l'impression de rater des événements ou des nouvelles importantes, bref, de passer à côté de sa vie. Les images sur les réseaux sociaux créent justement un manque permanent alimenté en continu, nous rappelant toujours ce que nous pourrions être en train de vivre d'autre que ce que nous vivons vraiment. Lorsqu'il s'agit de mettre en présence une réalité lointaine dans le temps ou dans l'espace, comme quand on diffuse en direct des images dans un reportage, ou bien quand on montre des images qui certifient de la réalité d'un fait passé, une photographie de guerre par exemple, celle de la jeune fille au napalm pendant la guerre du Vietnam, on considère souvent que l'image a dès lors une fonction informative. On l'érige alors en fait en représentation, c'est-à-dire qu'on la considère représentative d'une réalité passée ou présente. Même une image abstraite peut être représentative. Par exemple, une carte de la France est considérée représentative du territoire concret et réel qu'est la France. L'image est alors conçue comme un document, comme une trace, voire une preuve. Dans un article intitulé « Violence publique, l'image virale donne l'alerte », André Gunther te rappelle par exemple que les actes de sous-veillance, c'est-à-dire de surveillance organisée par les citoyens à l'encontre des forces de l'ordre, se sont généralisés au cours des 10 dernières années, notamment pour lutter contre l'impunité en matière de violence policière. L'image vidéo est alors bien utilisée comme une preuve, de par l'information qu'elle délivre, un document qui certifie de la véracité des paroles des victimes de ces violences. Pourtant, c'est bien aussi sur ce point que l'image achoppe. Parce qu'il est souvent impossible, à partir d'une image seule, de déclarer si elle est représentative ou non, et surtout de quoi elle est représentative. Quelle information nous délivre l'image exactement ? Comme nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard, les procédures judiciaires le montrent bien. Utiliser une image comme preuve, c'est en fait la construire en tant que telle. L'image en elle-même reste fondamentalement équivoque, dotée de multiples sens. La série de jeux d'enquête judiciaire Ice Attorney, dans laquelle on incarne un avocat qui est censé défendre des clients innocents, base une bonne partie de ses rebondissements par exemple sur la mauvaise compréhension et le caractère équivoque des images. Ainsi, il n'est pas rare qu'une photographie utilisée comme preuve à l'encontre de l'accusé qu'on doit défendre soit retournée par la défense pour prouver son innocence, en expliquant par exemple qu'une personne qu'on croit reconnaître sur une photo est en réalité l'assassin déguisé. Comment expliquer cet équivoque fondamental de l'image ? Dans le rapport de l'image à la réalité, on peut très vite distinguer trois niveaux. Le niveau de la vraisemblance, le niveau de la vérité et le niveau de la représentativité. La vraisemblance, c'est le caractère d'une image qui semble présenter une chose réelle, vraie. Entendre par là qui nous semble concevable, possible, envisageable. Nous apprenons très tôt à discerner ce qui est de l'ordre du vraisemblable et ce qui est de l'ordre de l'invraisemblable. Ainsi, les dessins et gravures du néerlandais Escher, qui montrent des escaliers qui montent et ou descendent à l'infini, sont invraisemblables. On sait généralement vite qu'ils nous montrent des choses impossibles, des paradoxes géométriques. En revanche, lorsqu'il s'agit de déterminer si une image vraisemblable, c'est-à-dire qui a l'air vraie, est effectivement vraie, c'est-à-dire si ce qu'elle montre est fidèle à une réalité existante, nous sommes généralement dans l'embarras. Nous pouvons aujourd'hui produire des images parfaitement vraisemblables, mais totalement fausses, ainsi des images de faux discours produites par les IA. L'image en elle-même est souvent dépourvue d'informations nous permettant de trancher de sa vérité ou non. Nous avons donc tendance à assimiler des images vraisemblables, qui ont seulement l'air vraies, avec des images vraies. Et par ailleurs, des images vraies à des images représentatives. Or, des images vraisemblables peuvent donc être fausses. Par exemple, si je vous présente une carte de l'Italie presque correcte, mais sur laquelle il manquerait quelques détails, il y a de fortes chances pour que vous la jugiez très vraisemblable, sans être capable de dire si elle est une représentation exacte ou non. Et des images vraisemblables et vraies peuvent ne pas être représentatives du tout. C'est même souvent l'objet des débats les plus virulents sur les images. Ainsi, une image peut être authentifiée, mais critiquée comme non représentative ou révélant un fait statistique tout à fait mineur. Par exemple, les images d'attentats sont généralement vraies, certifiées, authentiques. Mais de quoi exactement sont-elles représentatives ? Sont-elles représentatives, par exemple, d'un danger quotidien, d'un état de guerre civile ou d'insécurité permanente dans lequel nous vivrions ? Sans doute pas. Comme on l'a rappelé maintes et maintes fois, vous avez bien plus de chances de mourir dans un accident de voiture, dans un accident domestique, ou si vous êtes une femme sous les coups de votre mari, donc globalement plus de chances de mourir dans la sphère privée, que d'une attaque terroriste dans la sphère publique. En ce sens, les images peu ragoûtantes des paquets de tabac sont malheureusement plus représentatives de ce qu'il risque statistiquement d'arriver à un fumeur que celles d'un attentat. Cela paraît donc évident, mais il faut tout de même le rappeler, on peut faire dire à peu près n'importe quoi aux images, même vraies. L'image en elle-même ne permet pas de déterminer si elle est vraie ou fausse, et encore moins si elle est représentative ou non d'une situation. C'est bien nous, par le récit et le discours véhiculé autour de l'image, qui jugeons de sa vérité et de sa représentativité. En ce sens, les dictons répandus « une image vaut mille mots » ou « un dessin vaut mieux qu'un long discours » sont non seulement faux, mais encore nocifs, car il faut bien souvent plus de mille mots pour bien comprendre une image. C'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec la violence ? Eh bien, la violence des images ne tient justement pas seulement du contenu des images elles-mêmes, mais de la façon même dont les images nous apparaissent, nous sont présentées. Lorsque l'on veut définir ce qu'est une image violente, on pense certes d'abord à l'image dont le contenu est violent, dont le contenu nous choque, nous heurte. L'image est alors conçue comme une preuve, preuve irréfutable d'une vérité odieuse qu'on ne voudrait pas voir. Le mythe d'Œdipe ou de Narcisse nous rappelle à ce type d'image. Œdipe se crève les yeux lorsqu'il apprend qu'il a tué son père et couché avec sa mère, tandis que Narcisse est éternellement prisonnier de sa propre image. Comme dans un grand nombre de mythes, c'est le fait de se découvrir soi-même, de découvrir sa propre nature, de se connaître soi-même, qui entraîne la perte du personnage. L'image violente, dans une sorte de système de pensée masochiste, semble ici lier étroitement le pire et la vérité. Nous avons en fait cette même tendance face à l'image violente. Soit nous la rejetons vigoureusement en partant du principe que ce ne peut pas être vrai, soit au contraire nous partons du principe qu'il s'agit là de la dure réalité. Violence, image et vérité semblent souvent être associées les unes aux autres, et c'est là l'un des biais de notre psychologie. Penser que le contenu des images violentes doit montrer une vérité difficile à avaler. Mais les images sont aussi violentes parce que le mode d'être de ces images, leur mode d'apparition, est intrinsèquement violent. La violence, par définition, c'est ce qui vient rompre brutalement le cours normal des choses. Or, les images, en dévoilant des choses qui étaient cachées, qui étaient lointaines, absentes, voire taboues, font irruption dans notre réalité, dans notre présent. L'image a un mode qu'on appelle parfois halétique, du grec halétéia qui signifie notamment le dévoilement. La vérité peut aussi passer sur ce mode même, celui du dévoilement. La vérité doit être dévoilée, or, justement, l'image dévoile. En ce sens, on a tôt fait de faire aller ensemble image et vérité, et d'adhérer à l'image comme étant la réalité sans distance. C'est pourquoi Platon, lui, condamnait vivement les images. Car les images exercent une séduction immédiate qui est trompeuse. Pour lui, la violence véritable des images, c'est en fait de se faire passer pour la vérité en montrant. C'est de faire passer le domaine des apparences pour le domaine du savoir. Voilà la violence première de l'image, notre tendance à adhérer directement à ce qu'elle montre. La violence que peuvent nous infliger les images ne vient dès lors pas des images elles-mêmes, mais bien du manque de recul sur elles, du recul de la parole, du discours, du logos, comme nous l'avons déjà dit avec Marie-Josée Monzin. Ainsi, à la suite de Monzin et de Platon, il faut non pas se demander quelles sont les images violentes qu'il faudrait condamner, mais plutôt comment aménager la violence des images, que faire de la violence des images, comment construire un savoir, une vérité, faire quelque chose de la violence des images et des images de la violence.
Si l'on pense à la place des images dans notre construction de connaissances, on doit s'interroger sur le lien qu'entretient l'image avec la vérité. Est-ce qu'une vérité se dévoile par une image ? Et est-ce que l'image peut être porteuse de vérité ou est-ce qu'elle est toujours parcellaire, déformée ? On s'en rend facilement compte quand on parle de l'imagination, aussi parfois associée aux rêves, voire aux délires. Assez naturellement, on se méfie des représentations que l'on a quand on imagine quelque chose. Et il faudrait être bien présomptueux pour penser que l'on imagine les choses réelles avec exactitude. Descartes traite de la question dans la sixième de ses Méditations métaphysiques, ouvrage publié en 1641. On y trouve notamment une étude des facultés de l'esprit. C'est pour ça que c'est un mot particulier qu'il utilise, imagination. Avec ce suffixe « sion », on trouve l'idée de processus et d'action. L'imagination peut alors être définie comme la faculté de l'homme à produire des images, des représentations mentales de quelque chose qui est absent. Descartes distingue alors l'imagination de l'intellection. Ces deux facultés ne nous font pas découvrir la vérité au même titre. Il prend l'exemple des figures géométriques. Si je pense à un chiliogone, pour information, c'est un polygone à 1000 côtés. Je peux le faire en ayant la définition à l'esprit. C'est une conception. Je peux aussi le faire en imaginant ce à quoi il ressemble. Je ferme les yeux et j'essaye de voir suffisamment de segments pour faire 1000 côtés. Ça devient difficile. Je n'arrive pas à visualiser les 1000 côtés en même temps avec précision. De même, si je pense à un myriogone, 10 000 côtés, je ne vais pas véritablement visualiser 10 000 côtés, que je pourrais compter. Tout au plus, je peux visualiser un polygone informe, dont j'imagine qu'il a plein de côtés. Et dans ce cas, que ce soit un chiliogone ou un myriogone, j'imagine la même chose. Et même si j'essaye, je n'en verrai qu'une toute petite partie, comme si je faisais un zoom sur un nombre plus restreint de côtés. L'image est parcellaire. L'image ne montre pas l'objet dans toute sa vérité. Du moins, quand c'est l'image produite par notre esprit. Donc l'imagination ne me permet pas de connaître véritablement la chose, aussi bien qu'une approche qui est celle de l'intellection ou la conception, qui, elle, me donne une véritable définition. Un autre problème se pose. Si l'imagination n'est pas un outil tout à fait fiable pour la connaissance, parce que parcellaire, on peut même lui reprocher de nous induire carrément en erreur. Dans ce cas, il faudrait se demander si l'imagination n'entre pas en compte dans notre interprétation même des images. Peut-être que notre imagination accompagne aussi toutes nos images et modifie notre interprétation. C'est du moins un risque qu'on prend une fois qu'on a posé l'insuffisance de l'imagination. Et il faut l'explorer. En gros, est-ce que l'image physique s'oppose à l'imagination ? Au début de « Se défendre », Elsa Dorling prend l'exemple du lynchage d'un dénommé Rodney King, chauffeur de taxi afro-américain. Il est arrêté pour excès de vitesse et on le retrouve par la suite inconscient, ligoté, avec plusieurs lacérations et les chevilles cassées. Et il y a une image physique produite de tout ce lynchage par un témoin qui a tout filmé. Vient le jour du jugement et les policiers sont blanchis. Sans surprise, cela entraîne des émeutes. Et si on s'intéresse à la défense portée par les avocats des juges, on voit qu'il s'agissait de montrer que les policiers étaient en danger et ont simplement eu recours à la légitime défense. Et ils le font en s'appuyant sur la vidéo elle-même. Donc on a bien deux parties adverses. D'un côté, on a des gens qui vont manifester et prendre la défense de Rodney King, en faisant valoir le fait que c'est un lynchage. De l'autre, d'autres personnes vont blanchir les policiers. Mais ce qui est étonnant, c'est que les deux parties utilisent la même image. Les deux ont recours à cette vidéo, comme si l'image ne pouvait dire qu'une chose et était la preuve de ce qu'il défendait. L'image ne permettrait pas le doute. D'ailleurs, c'est le principe même du détective privé des séries américaines qui prend en photo une personne qu'il suit en filature et la présente comme une preuve à son client inquiet. Mais ce faisant, dans l'affaire Rodney King, les parties adverses montrent plutôt que l'image est équivoque. Le coup de force des avocats, c'est qu'à partir de la même image, ils font dire autre chose que ce que disent les défenseurs de Rodney King pour défendre à l'inverse les policiers. Ils n'utilisent pas une image contre une autre image. Par exemple, une autre vidéo tirée d'un autre moment où Rodney King serait violent, mais une interprétation contre une interprétation. À ce sujet, Elsa Dorlin reprend Judith Butler, qui va plus loin pour dire précisément que cette question d'interprétation est en réalité conditionnée par des milieux différents qui vont structurer, déterminer, orienter notre image. Elle parle d'un champ de visibilité racialement saturé. Cela signifie, en bref, que la perception des choses était remplie, conditionnée par le problème prégnant aux États-Unis de la différence de couleur et de la différence ethnique. Ce n'est pas juste deux interprétations différentes à partir d'arguments, d'un discours structuré, mais deux visions divergentes. On ne voit littéralement pas la même chose, parce que le milieu d'où l'on vient, par exemple si on est enclin à penser du mal de la police, ou si au contraire on a toujours entendu du mal des Afro-Américains, détermine une façon de voir l'image qui dépasse l'image. On la refabrique, c'est un travail d'imagination au sens littéral qui s'ajoute à l'image. Donc l'image n'est jamais seulement elle-même. Elle est toujours étoffée, empreinte d'une activité d'imagination qui va modifier notre façon de la comprendre. Et cette activité est orientée par ce qu'on appelle communément un imaginaire. L'enjeu est immense. Cela remet en question le sens du mot perception et la confiance qu'on a dans notre façon de nous rapporter au monde. Et en cela, ça remet en doute la valeur des images pendant qu'on débat. Quand on veut faire changer d'avis un adversaire, que ce soit avec des images attendrissantes, touchantes, ou des images dont on croit qu'elles vont contredire son discours, est-ce qu'on ne prend pas plutôt le risque de provoquer une collision entre deux champs de visibilité saturés, complètement différents? Est-ce que les images qui ont beaucoup tourné sur Internet, de jeunes gens des quartiers dits « populaires » qui bravent le confinement en 2020, ne peut pas provoquer autant de la compassion et de l'indulgence chez certains, chez ceux, par exemple, qui sont prédisposés à penser en premier à leurs conditions de vie en supposant que leurs appartements sont vétustes et étroits, que de la colère et de l'indignation chez d'autres qui vont simplement y voir un manque d'obéissance, de prudence et de sens civique.
Et si la violence fondamentale que nous font les images était donc l'unilatéralité du sens qui leur est imposé, dans le fait de ne pas pouvoir les réinterpréter, de ne pas pouvoir conserver leur équivocité, l'impossibilité sociale, en somme, de débattre de leur sens. Les plateaux télé et leurs experts prétendent justement parfois décoder l'image. Mais le verbe décoder peut donner l'impression fallacieuse que l'image a un code unique, qu'il s'agirait d'élucider une fois pour toutes. Or, précisément, on interprète une image plus qu'on ne la décode, c'est-à-dire qu'on lui attribue un sens parmi de multiples possibilités d'agencement. Or, lorsque l'on veut mobiliser par l'image, par exemple, il vaut mieux ne lui attribuer qu'un seul sens, ou la produire de la manière la moins équivoque possible. Ne laisser aucune place au doute et au recul. En d'autres termes, placer l'image dans un contexte où elle ne peut avoir que vocation à mobiliser et rien d'autre. C'est le cas des images de propagande qui ont un fonctionnement qu'on peut qualifier d'allégorique, c'est-à-dire qu'à un signe dans l'image correspond un seul sens, souvent très hostile ou au contraire très élogieux. Ainsi, les caricatures antisémites dans l'Allemagne nazie réduisaient bien la figure du juif à un stéréotype unique, indéboulonnable. Les caricatures de guerre, de façon générale, réduisent la nation d'en face à l'ennemi, ce pour mobiliser, faciliter la déshumanisation de l'adversaire. Ce type d'image, par son contexte de production et de réception, produit le pathos, la violence, les passions. Pour qu'une image soit au contraire émancipatrice, c'est-à-dire pour qu'elle puisse permettre de cultiver le logos, la parole, l'usage de la raison, le débat public, il faut réintroduire la donnée fondamentale du temps de l'image, afin de ne plus la subir passivement. Prendre le temps, c'est notamment considérer l'image avant de réfléchir sur son sens ou sur ce qu'elle montre. C'est en somme sauvegarder la fonction symbolique de l'image. La fonction symbolique, contrairement à la fonction allégorique, consiste à considérer un objet comme essentiellement équivoque, pluriel, avec de multiples couches de signification. Réintroduire l'objet comme ayant de multiples significations, c'est se préserver de la violence qu'il pourrait nous faire faire, car dès lors, on évite de prendre une image, une photographie, au premier degré, sans s'interroger sur comment elle montre ce qu'elle montre, avec quel biais potentiel, quel parti pris, etc. Bien sûr, certaines images ont bien servi de preuves irréfutables, fort heureusement, ont révolutionné donc l'histoire. Certaines photographies ont apporté de précieuses informations et sensibilisé durablement l'opinion publique. En remplissant les trous de notre imagination, elles ont permis de saisir l'ampleur des atrocités commises dans l'histoire, ne serait-ce si nous pensons aux photographies des camps de Dachau ou d'Auschwitz. L'une des plus célèbres photographies de guerre, la petite fille au napalm que nous avons déjà citée, prise pendant la guerre du Vietnam, en est aussi un exemple. Mais ces photographies n'auraient pas eu l'impact sociétal qu'elles ont eu sans les multiples relais par des lanceurs d'alerte intellectuels militants qui les ont insérées dans un discours public. Si l'image a son propre langage, cela ne veut pas dire qu'elle parle toute seule. Dans sa très célèbre série d'essais intitulée « Sur la photographie », l'écrivaine américaine Susan Sontag analyse l'impact de l'émergence de la photographie sur notre perception du monde. Elle rappelle ainsi que la photographie a complètement transformé notre rapport au réel, engendrant une sorte de désir de le capitaliser entièrement en images, une sorte de voracité de compiler la réalité, boulimie qui a engendré un syndrome de toute-puissance. Parce que le monde entier se trouvait soudainement photographiable, l'impression qu'il était à disposition, de pouvoir le maîtriser entièrement en le dominant du regard, s'est trouvée multipliée. Mais par là, la photographie a progressivement mené à une objectivation, une réification du monde, et surtout des sujets et de la souffrance de ces sujets, la rendant de manière de plus en plus impersonnelle. Comme le souligne Sontag, l'exposition continue aux photographies peut mener à un émoussement de notre sensibilité vis-à-vis de ce qu'elles montrent, en provoquant un sentiment d'irréalité, et le relais ultra rapide des images de guerre sur les réseaux sociaux a tendance à le confirmer. Et paradoxalement, à mesure que notre émotion face aux images diminue, c'est en même temps notre sentiment qu'elles sont des preuves irréfutables qui augmentent. Or, toute photographie, et toute image par extension, n'est qu'un morceau du monde, un début de connaissance très parcellaire, au rabais, qui appelle continuation. Citons directement Sontag. Implicite dans la photographie est l'idée que connaître le monde, c'est l'accepter tel que la photographie le fixe. Mais c'est précisément là l'opposé de la compréhension, qui commence par le refus du monde tel qu'il apparaît. Rigoureusement parlant, on ne comprend jamais rien à partir d'une photographie. Bien entendu, les photos remplissent les vides de nos images mentales du présent et du passé. Par exemple, les images où Jacob Riis montre les bas-fonds sordides du New York des années 1880 mettent bien les choses au point pour ceux qui ne se rendent pas compte à quel point la misère urbaine en Amérique à la fin du 19e siècle était proche d'un roman de Dickens. Néanmoins, la façon dont l'appareil photo rend la réalité dissimule toujours plus qu'elle ne montre. Seul le mode narratif peut nous permettre de comprendre. La limite du savoir que la photographie peut donner du monde est que, tout en pouvant aiguillonner la conscience, elle ne peut en fin de compte jamais apporter aucune connaissance d'ordre éthique ou politique. La photographie elle seule ne peut être que l'entame d'un désir d'aller plus loin, de connaître. En suscitant l'émotion, elle doit pousser notre curiosité. L'image est donc un rappel à l'ordre, pour s'informer. Le danger qu'on court avec les images, c'est de normaliser notre attitude courante vis-à-vis d'elles, qui consiste à se satisfaire des images seules comme représentation du réel. Se satisfaire des images seules, c'est les envisager comme une fin en soi, et non comme le moyen sur lequel appuyer notre désir de comprendre et de connaître. Autrement dit, dans notre attitude face à l'image, il faudrait réintroduire l'émotion salvatrice, celle qui pousse à l'information, à la multiplication des réseaux de questionnement, et non plus à une attitude cynique, distante, désengagée, ou au contraire à une réaction émotive épidermique qui consisterait en la condamnation et en l'agressivité immédiate. Travailler sur l'image, c'est travailler avec l'émotion qu'elle provoque, avec le dérangement qu'elle provoque, et s'en servir pour la prolonger dans le discours et dans la connaissance. Cette émotion consiste notamment, lorsque l'image nous montre un fait réel, à bien saisir la mesure et la portée de cette réalité. Car le problème le plus important causé par l'omniprésence de l'image, c'est de traiter toute information sur le réel comme une image, c'est-à-dire en considérant toute information comme une fiction irréelle et lointaine, comme une performance, comme de l'entertainment. Nous pouvons être amenés à ressentir devant les images d'un ouragan, devant les images de la bombe atomique, devant les images de l'explosion du port de Beyrouth en 2020, une fascination morbide, un sentiment purement esthétique de sublime distancié dont il faut se méfier. Ce processus de déréalisation explique comment on peut en venir à voir des soldats tirer sur des civils par drone en riant. Et il ne faut pas voir là l'effet d'un abus de jeu vidéo, c'est se tromper de problème. Il faut voir là l'effet d'une absence de méditation sur ce que ça implique de voir la réalité au travers de l'image. Une absence de travail de sensibilisation aux images, de distinction entre la réalité et la fiction. Il faut réintroduire autour des images le travail de récit et une forme de travail contrôlé de l'imagination. Comprendre notamment ce qui a pu avoir lieu hors cadre, en dehors d'une photographie. Les images sont les supports et les invites d'un travail de reconstitution mentale qui doit être fait. Il faut sans cesse rappeler qu'une image contient beaucoup plus dans ce qu'elle ne montre pas, ce qui est tu et doit être explicité, que dans ce qu'elle montre effectivement. Autrement dit, il faut réfléchir aux grands modèles qui construisent et conditionnent ce que nous voyons, aux champs de visibilité saturés que nous avons évoqués. Une analyse qui n'est pas sans rappeler le projet de la philosophie d'Immanuel Kant. Kant propose dans son ouvrage majeur La critique de la raison pure d'analyser les conditions par lesquelles les hommes perçoivent et organisent le monde. Cette analyse, il l'appelle transcendantale. L'analyse transcendantale essaie de comprendre les règles qui conditionnent toute perception humaine. Ainsi, Kant montre que nous avons tous tendance à percevoir le monde selon le schéma de la causalité. Lorsque l'on voit le bateau descendre du fleuve, on considère naturellement que c'est le courant du fleuve qui emporte le bateau. Le schéma de la causalité vient structurer notre perception en amont. Dans le cas des images, il faudrait aussi proposer une analyse transcendantale, c'est-à-dire réfléchir aux grands schémas, aux grandes idées qui viennent constituer les images en amont. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode, mais l'anthropologue Philippe Descola, dans son ouvrage de 2021 « Les formes du visible », montre par exemple que nos images sont conditionnées par la façon même dont nous considérons la nature de la réalité, et surtout des rapports entre humains et non-humains. Il distingue quatre grandes façons de considérer la nature et les non-humains à travers l'histoire et les cultures. La première, l'animisme, du peuple amazonien des Achuar par exemple, qui considère que presque tout être vivant et presque toute chose est dotée d'une âme, bref, que quasiment tout possède une intériorité, et que c'est par leur corps singulier que se distinguent les êtres, le corps du singe n'est pas celui du palmier, qui n'est pas celui du papillon, etc. La seconde, le naturalisme, c'est-à-dire en gros notre cosmologie occidentale, qui considère, au contraire, que notre esprit nous distingue de tous les êtres non humains, et que tous les corps naturels, y compris le nôtre, obéissent exactement aux mêmes lois qui nous permettent grossièrement de contrôler la nature. L'animisme et le naturalisme s'opposent de manière symétrique. L'animisme considère que tout dispose d'un esprit, et le naturalisme, au contraire, réserve ce privilège à l'homme seul. L'animisme et le naturalisme, c'est un petit peu la rencontre entre John Smith et Pocahontas.
Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur.
Pour toi, les deux autres façons de construire la nature, le totémisme par exemple des aborigènes et l'analogisme, c'est-à-dire en gros la pensée renaissante en Occident, envisagent les ressemblances et les différences sur deux autres modes. Le totémisme crée une famille morale entre des êtres très différents en les liant tous à un même totem. Ainsi, une plante, un animal et un homme peuvent appartenir à la même classe totémique, par exemple celle de l'aigle, qui les liera à cet animal non de manière physique, mais par des similitudes morales. Par exemple, des caractéristiques prêtées à l'aigle comme la sagesse, la décision, la réactivité, etc. L'analogisme, enfin, considère toute chose dans le monde comme unique et singulière, mais de manière systématique. Toutes les choses correspondent dans un système d'analogie. Un jour du calendrier avec une constellation, un caractère avec une couleur, etc. Le monde est un système dans lequel tout renvoie à tout. Ce qu'explique Philippe Descola, c'est que ces manières de construire le monde, l'animisme, le totémisme, l'analogisme, le naturalisme, déterminent la façon dont nous construisons des images du monde. Ainsi, les productions imagées de notre époque naturaliste tendent à séparer la nature de l'observateur humain, à tracer une ligne de démarcation, par exemple, entre le paysage et celui qui le contemple de loin. Et ce, parce que notre cosmologie postule une séparation entre l'esprit humain et la matière, le reste de la nature. Un peu à la manière de Descola, dans un ouvrage intitulé « Objectivité » publié en 2012, les philosophes des sciences Lauren Dunstan et Peter Galison ont montré comment l'imagerie scientifique a non seulement évolué, mais a toujours entretenu un lien avec la façon dont on a défini la notion d'objectivité en science. Ainsi, les images des atlas scientifiques au XVIIe et au XVIIIe siècle avaient tendance à produire des spécimens, c'est-à-dire des images idéales générales de ce à quoi une marguerite doit ressembler. C'est-à-dire qu'on cherchait à montrer l'essence de la marguerite, toutes les caractéristiques de la marguerite, en produisant une image parfaite, idéale de marguerite. Au XIXe siècle, au contraire, notamment avec l'essor de la photographie, l'idée qu'on se faisait de l'objectivité a évolué. Ainsi, les photographies scientifiques de l'époque sont témoins d'un changement de modèle scientifique. La photographie, en effet, montre la chose telle qu'elle est vue dans le réel, avec ses accidents et défauts éventuels, ses irrégularités, et non donc la chose idéale. La conception de l'objectivité qui gouvernait la production d'images n'était plus la même. Il n'était plus question de représenter l'essence de la chose telle que l'esprit humain la conçoit, mais de montrer la chose telle qu'elle se présente, sans intervention subjective, sans intervention de l'esprit humain. La photographie, en tant que reproduction mécanique, était parfaitement adaptée à cette conception de l'objectivité. C'est long détour pour expliquer que retrouver les conditions de production des images, rétablir leur contexte de production, c'est restaurer leur signification et portée véritable, mais également permettre la pluralité des interprétations à leur sujet. C'est ce savoir qui peut contribuer à rétablir la distance nécessaire avec les images et à nous rendre capables d'aménager leur violence. De manière générale, et comme le dit Marie-Josée Monzin, les solutions qui consisteraient à promouvoir un jeûne radical des images, et en particulier des images violentes, sont non seulement irréalistes, mais sans doute contre-productives. C'est plutôt en outillant mieux tout un chacun face aux images, et aux images violentes en particulier, que nous pourrons faire quelque chose de cette violence, que nous pourrons renouer avec l'idéal aristotélicien de la catharsis, de la purge des passions à travers l'image. Renouer avec également un sens communautaire, humaniste de l'image. Pourquoi pas, en se constituant notamment, un petit corpus d'images clés à méditer pour faire chaque jour un peu son travail de reconstitution, de remémoration, de récit, de réalisation au sens fort de l'image. Bref, pour le dire à la manière de Susan Sontag, accepter de se laisser gagner par le deuil face à l'image, de se laisser hanter. Être hanté par des images, c'est se souvenir à travers elles de tout ce qu'elles impliquent réellement. C'est considérer par exemple la photographie de guerre avec le deuil et la dignité qu'elle impose. Être hanté, c'est refaire constamment le lien entre le passé et le présent. C'est considérer la photographie par exemple comme cette marche d'accès unique et singulière à une réalité passée. Consommer passivement des images, c'est tout l'inverse d'être hanté. C'est ne vivre qu'au présent, en considérant les images comme des simulacres, toutes substituables les unes aux autres, ayant toutes la même valeur, c'est-à-dire plus aucune valeur. Se laisser gagner par une image, c'est considérer sa fonction, c'est déterminer ce qu'elle m'invite à faire. L'image est un écho qui appelle à être prolongé, dans ce qu'on peut appeler une écologie des images. Si vous avez aimé l'émission du jour, je vous invite à la repartager et à la suivre sur Spotify, Les Va-Nu-Pieds, ou sur Instagram, @lesvanupieds. C'était Ben et son invité Rindala El Ayoubi pour Radio Bartas et Les Va-Nu-Pieds, et nous vous souhaitons une bonne journée.
Cette nuit j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais plus de télé, plus personne pour me faire voir les belles images du monde entier. Et comment je fais pour savoir qui c'est qui se fout sur la gueule, combien de clochards qui dorment dans un cercueil, qui c'est qui va m'annoncer que Johnny l'est toujours pas mort et qu'un avion s'est écrasé parce que le pilote allait pas fort. Heureusement que c'est pour de faux, je peux me recoller devant mon écran, j'allume les infos, c'est rassurant, tout va mal. Alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, le monde roupille dans son fauteuil. Alors ça va, j'espère qu'avant la fin de l'année, on se mettra un autre tsunami. C'est beau la solidarité, ça fait plaisir à la patrie. Et moi, je saurai quoi faire de toutes mes pièces jaunes. Je les donnerai à la boulangère, elle connaît ceux qui font l'aumône. J'ai eu peur que tout aille mieux, qu'on s'éloigne de la routine, qu'Israël soit amoureux de toute la Palestine. J'ai bien cru que pour de vrai, les dirigeants les plus craignos autorisaient le mariage gay et leur laissaient faire des gosses. J'ai rêvé que les barbus s'étaient rasés les poils et qu'aucune femme ne serait pendue pour une histoire de voile. J'ai cru que Marine Le Pen ouvrait une boucherie halal. Heureusement que la connerie humaine me remonte le moral. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, le monde roupille dans son fauteuil. Alors ça va, j'espère qu'avant la fin de l'année, on pourra tous re-être Charlie, qu'on pourra tous se re-aimer dans les rues de Paris. C'était bien, mais c'était court, faudrait que ça arrive plus souvent, qu'on applaudisse avec amour les flics et les présidents. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, Hollande roupille dans son fauteuil. Alors ça va, j'espère qu'avant la fin de l'année, il y aura le feu en Alaska, qu'on bouffera du pingouin grillé et que les phoques n'auront plus froid. J'espère surtout qu'avant la fin du mois, mon patron va m'augmenter pour que je me paye un écran plat et que je mate tout ça en 3D. Tout va mal, alors ça va, l'Afrique a toujours la dalle. Alors ça va, en Irak ils se foutent sur la gueule. Ben c'est que ça va, et moi je roupille dans mon fauteuil. Alors ça va, se font encore la malle. Ben c'est que ça va, et nous on chie dans l'eau potable. Alors ça va.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va-Nu-Pieds, tout est Va-Nu-Pieds.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est Va-Nu-Pieds.